La population mondiale a dépassé en 2012 les 7 milliards d'individus et la question du surpeuplement obsède nos sociétés depuis longtemps avec la bombe démographique qui menaçait d'exploser à tout moment. Sommes-nous sortis depuis longtemps de cette vision catastrophiste liée à la surpopulation ou est-ce que la croissance justement de la population reste encore une ombre qui plane sur le destin de notre planète ? C'est à la science des démographes que l'on s'intéresse aujourd'hui avec mes invités dans un instant, Yves Charby et Hervé Lebras. Toutes vos questions sur ce thème dès maintenant sur le site de l'émission franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. À la une de la science aujourd'hui, une salle d'opération unique en Europe permettant des interventions cardiaques robotisées. Ça se passe au CHU Nord de Saint-Étienne. On en parle avec le chirurgien Antoine Dacosta dans un instant et l'un des entrepreneurs français les plus innovants, Bertin Naoum. Violaine Ballet réalise cette nouvelle tête au carré qui a été préparée par Lucie Sarfati avec Axel Villard et Fanny Cohen-Moreau.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Nos invités démographes Yves Charby et Hervé Lebras, bonjour. À tous les deux. Merci d'être avec nous cet après-midi. Yves Charby, est-ce que la bombe démographique menace toujours d'exploser ou est-ce qu'il s'agit d'une vieille lune, toujours en cours, hein, autour de cette idée obsédante de la surpopulation ?
La lune est un astre éternel, la population probablement pas. Donc c'est un vrai problème de savoir pondérer la réponse. Il y a d'énormément de dimensions derrière ce problème-là, mais il y a surtout une fascination du chiffre et c'est ça qu'il est important de dénoncer, de déconstruire et de nuancer.
Parce que ça persiste, hein, toujours.
Ça persiste dans la tête des gens en particulier et dans les faits en partie.
Ouais. Hervé Lebras, est-ce que la croissance démographique est toujours aussi rapide aujourd'hui ou est-ce qu'on a vraiment changé de vitesse, hein ?
Non, elle est beaucoup moins rapide, c'est ça qui est très important. On vous montre toujours une augmentation de la population, mais le rythme d'augmentation, le taux de croissance n'a pas cessé de baisser depuis 1972. Il était à l'époque de 2,2% par an, c'est-à-dire un doublement tous les 28 ans de la population mondiale. Il est maintenant à peu près de 1%. Et si on prolonge la courbe, il passera peut-être à 0% vers 2060. Et 0%, ça veut dire que la population s'arrêtera de croître et commencera même à décroître.
Donc baisse générale de la fécondité aussi en ce moment sur la planète ?
Baisse pas totalement générale, parce que dans certains pays, mais très peu de pays, elle reste très élevée. Oui. Mais dans l'ensemble, disons que dans la majorité des grands pays de la planète, la fécondité est même tombée au-dessous de 2 enfants par femme.
On va se retrouver dans un instant autour de votre ouvrage, Yves Charby, que vous signez avec Maryse Guémard. Ça s'appelle « La bombe démographique en question ». Ça sort aux presses universitaires de France et les auditeurs nous rejoignent sur franceinter.fr. À la une de la science aujourd'hui, des robots qui nous soignent.
Ne vous alarmez pas, ceci est un acte de bonté.
Et c'est une première en Europe, le CHU Nord de Saint-Étienne inaugure aujourd'hui une deuxième salle d'opération équipée d'une assistance chirurgicale robotisée permettant des interventions cardiaques. Nous sommes en ligne avec le chirurgien qui fait équipe avec la machine, professeur Antoine Dacosta, bonjour.
Oui, bonjour.
Et puis nous sommes en studio avec celui qui est présenté comme le génie français de l'innovation justement dans ce domaine de la robotique, Bertin Naoum. Merci d'être avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur et président de la société MedTech qui commercialise le robot Rosa. On va en parler avec vous dans quelques instants. Professeur Dacosta, à quoi sert ce robot donc ici au CHU de Saint-Étienne et pour cette inauguration de la deuxième salle donc aujourd'hui ?
Ce robot sert à traiter des arythmies complexes, des troubles du rythme complexes au niveau cardiaque. Donc c'est une assistance aux médecins et donc pour apporter une sécurité supplémentaire.
Aux patients donc, hein, opérés aux patients. Donc chez vous. Voilà. Comment ça fonctionne ? Expliquez-nous un petit peu où vous trouvez-vous par rapport à la machine, à ce robot et puis bien sûr avec ce patient que vous opérez.
Ben on est dans une salle d'intervention classique, mais habituellement on traite manuellement les patients, donc on est au contact direct du patient. Mm-hmm. Dans ce cas de figure, on manipule à distance le cathéter qui sert à traiter les arythmies. On manipule ce cathéter directement sur une interface informatique à l'aide d'une souris. On navigue en 3 dimensions à l'intérieur du cœur à distance du patient.
Oui, à quelle distance justement êtes-vous ? Parce que je me souviens, il y a très longtemps, au début de la tête au carré, on avait parlé d'une intervention robotisée comme ça, mais entre New York et Strasbourg. Mais là, vous êtes quand même beaucoup plus près de votre patient. Hein.
On est dans la même salle, hein, donc oui. On est à quelques mètres, même si on pourrait imaginer de faire une intervention plus à distance. Hein, mm-hmm. On est à quelques mètres seulement. Hein.
Bertin Naoum, vous êtes donc à la tête de la seule entreprise française qui fabrique des robots d'aide à la pratique chirurgicale. Votre robot, donc, à vous, s'appelle Rosa Brain. Quelle est sa spécificité ?
Alors Rosa, il y a en fait deux robots. Le robot Rosa Brain, qui est utilisé pour la chirurgie du cerveau, et Rosa Spine, plus récent, qui est utilisé pour la chirurgie de la colonne vertébrale. Mm-hmm. Dans les deux cas, il s'agit d'apporter un regain de précision et d'assistance aux chirurgiens dans des opérations relativement sensibles.
Ouais. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur ces robots et depuis combien de temps est-ce qu'ils existent concrètement auprès des chirurgiens maintenant ?
Alors la société a été créée il y a maintenant 12 ans de cela. Pour ce qui est de Rosa Brain, son lancement commercial remonte à 2008. Quant à Rosa Spine, son lancement commercial remonte à quelques mois.
Ouais. Et alors là, donc, vous avez anticipé les pratiques au fond, parce que c'est ça, c'est quand même un geste chirurgical qui change totalement aujourd'hui avec ces machines.
C'est tout à fait, je dirais, la mission d'une société telle que MedTech, qui est d'accompagner l'évolution des pratiques chirurgicales. Pour ce faire, nous travaillons aux côtés des équipes médicales et chirurgicales, mm-hmm. et nous essayons d'identifier la façon dont la technologie peut répondre aux challenges de la médecine moderne.
Ouais. Alors, professeur Dacosta, justement, alors ça n'est pas Rosa Brain que vous utilisez, puisque vous êtes dans le domaine cardiaque. Quel avantage pour un chirurgien et pourquoi est-ce que, justement, vous êtes porté candidat pour travailler avec de la robotique à vos côtés ?
Je dirais que les principaux avantages, c'est les mots-clés qui ont été cités par le collègue, c'est-à-dire que c'est la sécurité et c'est la précision qui font qu'on a eu envie de travailler de cette façon plus moderne.
Ça fait combien de temps que vous avez ce tout premier robot, en tout cas la première salle, elle a été ouverte quand ?
La première salle a été ouverte en janvier 2010 et on ouvre donc en 2015 la deuxième salle.
C'est une façon totalement différente de travailler pour un chirurgien justement, d'avoir à piloter ses interventions avec des robots ?
Je dirais que c'est un complément, c'est une assistance complémentaire pour essayer de gagner en termes de sécurité et d'efficacité.
Bertin Naoum, est-ce que selon vous, la machine va totalement supplanter l'homme dans le bloc opératoire ? En tout cas, j'imagine que c'est ce que vous souhaitez, vous, puisque vous vendez des robots. Mais quelle est votre vision là-dessus pour l'avenir ?
Alors, assez étonnamment, pas du tout. L'objectif de la robotique médicale et chirurgicale n'est absolument pas de remplacer les praticiens et leurs équipes. Je crois que les chirurgiens, les médecins ont encore de beaux jours devant eux. Et l'objectif n'est absolument pas de les remplacer. C'est plutôt d'apporter une assistance et d'accompagner, comme je le disais précédemment, l'évolution de la médecine et de la chirurgie.
Comment sont accueillis, professeur Dacosta, justement, ces robots-là à Saint-Étienne par les autres chirurgiens et puis par les patients aussi, parce que ça les intéresse aussi, j'imagine, de savoir qu'ils vont être opérés par des machines.
Je dirais que les patients voient ça comme une sécurité supplémentaire parce qu'ils se rendent compte qu'au sein même d'un centre hospitalier, les évolutions technologiques viennent en aide aux médecins pour essayer de gagner en fiabilité.
Ils sont sereins en général quand vous leur annoncez qu'ils vont être en partie opérés par une machine ?
Ils sont, je dirais, assez sereins, oui. Effectivement, ça leur apporte ça leur enlève une angoisse.
Ah bon, très bien.
D'être opéré avec ce type d'outils.
Donc aucun patient n'a refusé d'être opéré par un robot, hein, jusqu'à maintenant,
aucun,
en tout cas.
Aucun.
Axel, sur le mot-clé l'attaque, des messages ?
Oui, sur Twitter, Nono le chat se demande combien ça coûte et combien est-ce que ça coûte à la sécurité sociale ?
Ah, alors qui veut répondre ? Professeur Dacosta, peut-être pour commencer ?
Ben, le coût d'une salle robotisée... Oui, c'est une salle de cardiologie interventionnelle, hein, donc ça vaut entre 1,5 million et 2 millions, mais la rentabilité c'est du long terme, hein, et il y a beaucoup de patients qui vont être opérés. Hein.
Et donc pour la sécurité sociale, c'était l'autre question de Nono le chat.
Mais je crois que c'est pas la sécurité sociale directement qui va financer l'appareillage, hein. c'est le centre hospitalier en lui-même.
Hein. Oui, mais sur les interventions, il y a un coût quand même qui est pris en charge par la sécurité sociale. Hein.
Oui, mais le coût n'est pas supérieur à un coût d'intervention manuelle. Voilà, c'est le même coût.
Bertin Naoum, ça coûte combien une machine justement comme Rosa Brain par exemple ?
Alors nous, c'est un peu moins cher puisque un robot Rosa coûte environ 400 000 euros. Après, ça va dépendre bien sûr des options. Pour ce qui est, je dirais, donc, des coûts pour le patient, en fait, je dirais que c'est un investissement de la part de l'hôpital Et donc le coût est complètement transparent pour le patient. Il s'agit encore une fois tout simplement de proposer des solutions de traitement du patient qui sont beaucoup plus efficaces et novatrices et bien évidemment pour le bénéfice du patient.
Ouais, vous formez les chirurgiens justement à ces nouveaux actes, à ces nouveaux gestes en tous les cas ?
C'est effectivement une dimension extrêmement importante de notre métier, d'accompagner les médecins, les chirurgiens, leurs équipes d'une façon générale, dans l'utilisation de ces nouvelles technologies.
Professeur Dacosta, pour vous, c'était vraiment une sorte de remise en cause, en tout cas, de votre façon de travailler, d'être accompagné par les robots ?
Oui, je crois que c'est. Je crois qu'il faut accepter de faire une courbe d'apprentissage et donc de se former auprès des sociétés donc qui développent ces systèmes et puis de se former également avec des centres experts au niveau mondial.
Axel, le mot-clé l'attaque toujours.
Une autre question de Larry qui nous demande est-ce qu'on cherche aussi à développer des robots polyvalents qui ne sont pas conditionnés pour une seule tâche ?
Alors, peut-être Bertin Naoum là-dessus ?
Alors, dans le cas du robot Rosa, en neurochirurgie, nous couvrons près de 80% des indications. Nous soignons des patients souffrant de la maladie de Parkinson ou d'épilepsie. Maintenant, je dirais, rendre un robot complètement polyvalent, c'est un peu complexe dans la mesure où les spécialités chirurgicales ont des différences qui sont majeures.
C'est ça. Donc il y a des tâches très précises hein, qui sont étudiées par la machine. Bertin Naoum, au mois d'octobre, l'Express vous a classé parmi les 100 nouveaux génies français. En 2012, vous avez été classé 4e entrepreneur du monde derrière Steve Jobs, Mark Zuckerberg et James Cameron. Rien que ça. Pourquoi les Français ne connaissent pas votre nom ?
Écoutez, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Je dirais que d'une façon générale, en France, on a la chance de bénéficier d'une créativité, une inventivité qui est souvent reconnue au-delà de nos frontières. Et quand il s'agit d'innovation technologique en particulier dédiée à la médecine et à la chirurgie, je crois que la France a des atouts extrêmement forts à faire valoir.
Oui, mais les Français ne connaissent pas justement les personnages clés de ce secteur de l'innovation robotique.
Plus généralement, c'est peut-être propre au fait que les dirigeants d'entreprise ne sont pas nécessairement, je dirais, des personnalités très connues dans le grand public.
Ouais. On les met moins en lumière, en tout cas, que dans les pays anglo-saxons. Hein.
Peut-être.
En tout cas, on était ravis de vous accueillir. Merci d'être passé par le studio de la Tête au Carré. Et puis, professeur Dacosta, merci également à vous, donc, à l'occasion de cette deuxième salle d'opération qui démarre donc aujourd'hui au CHU Nord de Saint-Étienne, dans le domaine donc de l'assistance chirurgicale robotisée pour la cardiologie. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les trous noirs pourraient accélérer le vieillissement des galaxies. Selon une étude menée par une équipe internationale d'astronomes, certains trous noirs pourraient expulser hors des galaxies voisines le gaz nécessaire à la création de nouvelles étoiles. Ne pouvant plus fabriquer d'étoiles, ces galaxies meurent prématurément. C'est notamment le cas pour la galaxie JO836 qui s'est fait subtiliser un grand nuage, principalement constitué d'hydrogène, par un trou noir actif proche. Un dinosaure au très long cou découvert en Chine, son cou a la particularité de mesurer la moitié de la longueur totale de son corps. Ce dinosaure s'appelle Qijuanglong, ce qui signifie en chinois « dragon de Qijiang », la ville près de laquelle il a été découvert. D'après les chercheurs de l'Université canadienne de l'Alberta qui l'ont mis à jour, il devait mesurer 15 mètres en tout et vivre au Jurassique supérieur il y a environ 120 millions d'années. Et puis une nouvelle drogue qui tue, son nom est Superman. Cette pilule d'ecstasy rose en forme du logo de Superman aurait déjà fait 4 morts au Royaume-Uni. L'Institut scientifique de santé publique belge affirme que cette drogue contient une dose inhabituellement élevée de PMMA, une substance mortelle. Son effet assez tardif pousserait les consommateurs à reprendre une pilule, ce qui donne lieu à des troubles physiques graves pouvant donc conduire à la mort. La bombe démographique, c'est le dossier dans un instant de la Tête au Carré.
We're
Trend Darby à l'instant sur France Inter.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
La bombe démographique en question, donc un ouvrage qui sort aux presses universitaires de France. Yves Charby, vous en êtes l'auteur avec Maryse Guémard. Vous êtes professeur émérite de démographie à Paris Descartes et spécialiste des questions de population et de développement en Afrique et puis également de l'histoire des théories et doctrines de la population. Vous avez fondé le CEPED qui est le Centre Population et Développement. Et puis Hervé Lebras avec nous. Vous êtes également démographe, directeur de recherche émérite à l'INED et directeur d'études à l'EHESS. Vous avez publié entre autres en 2009 aux éditions du Pommier, vie et mort de la population mondiale. Donc ensemble, on va explorer avec vous, c'est aussi l'objet de cette émission, cette science de la démographie, avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr donc, et sur le mot-clé, l'attaque. Yves Charby, donc, à la fin des années 60, sort un ouvrage intitulé La bombe P. Il est écrit par un biologiste qui s'appelle Paul Ehrlich et sa femme Anne. La bombe P, P comme population. C'est une nouvelle menace qui plane sur le monde, justement, à ce moment-là, évoquée par ce livre.
C'est la prise de conscience de la croissance démographique et de son rythme de croissance que soulignait Hervé Lebras tout à l'heure. C'est tout à fait fondamental, mais ça a très vite centré la discussion sur strictement l'effet de nombre au sens pur, sans se préoccuper vraiment des questions des sous-jacentes à la croissance démographique, alors qu'inversement, effectivement, le nombre était vu comme une menace sur les ressources. Oui. Donc il y a un déséquilibre entre les causes de la croissance démographique et ses conséquences. L'accent a été mis sur les conséquences.
Et ce livre prédisait une famine, hein, c'est ça
Très
massive,
alarmiste.
Hein, au cours des années 70-80, avec justement Hervé Lebras, qu'on appelait à l'époque le tiers-monde.
Oui, mais il faut dire que Paul Ehrlich n'était pas le premier, puisque en fait, c'est une couverture du grand hebdomadaire Times en 1960, qui s'est intitulé L'explosion de population. Et ouais. Donc, c'est à partir de ce moment-là que le thème est devenu un thème populaire. Et s'il a eu un tel succès, c'est aussi parce que il rejoignait une problématique beaucoup plus ancienne, qui était celle de l'eugénique, c'est-à-dire la peur du fait que les pauvres se reproduisent plus vite que les riches, qu'ils submergent les riches. Et c'est là qu'on rejoint le thème à l'époque du tiers-monde, c'est-à-dire ouais. cette peur de l'invasion, non plus simplement des pauvres de l'intérieur d'un pays, mais des pauvres de l'extérieur du pays.
Ouais, alors Yves Charby, ce que vous racontez, c'est que suite à l'apparition de ce livre, donc c'était à la toute fin des années 60, en 74, à la première conférence mondiale sur la population qui est organisée à Bucarest, il n'y a plus de doute justement sur l'explosion rapide de la population. Hein.
Alors c'est là que la question devient éminemment politique. Si vous permettez, je voudrais juste revenir en arrière, parce qu'il y a un deuxième livre qui est très important, ce qu'on appelait le rapport Meadows, parce que lui, il a généralisé à l'épuisement de l'ensemble des ressources naturelles, quand aurons-nous plus de pétrole, quand aurons-nous plus de cuivre, etc., etc. Donc des projections qui passaient de simplement la subsistance au mode de vie en vérité, au développement industriel. Alors effectivement, ce qui s'est passé à Bucarest, moi j'étais témoin à l'époque, c'était que d'un côté, les Nations Unies avaient dit « ça devient dramatique, il faut absolument mettre un plan d'action mondiale ». Et un plan d'action mondiale, ça voulait dire, comme les pays riches et industrialisés augmentaient moins vite que les autres, ça voulait dire forcément que les pays du tiers-monde diminuent leur fécondité, donc leur rythme de croissance. Mmh. Et ça a suscité immédiatement un tollé, et on a eu une crispation entre les pays occidentaux qui téléguidaient les Nations Unies en réalité à travers leur expertise, autour des questions de il est important d'agir urgemment sur le nombre des hommes, et en face, donc utiliser la contraception, la diffuser, et en face, cette phrase qui est devenue extrêmement connue, le meilleur contraceptif, c'est le développement. Autrement dit, il faut se soucier du reste. Et au moment précis de la conférence de Bucarest, en 1974, je suis tombé sur une phrase tout à fait juste d'un responsable pakistanais qui disait « Le problème, ce n'est pas le trop grand nombre d'hommes ou de personnes, c'est le trop grand nombre de pauvres. » Ce qui resituait immédiatement la démographie dans sa dimension globale du développement.
Hervé Le Bras, à un moment, en 1974, justement, où l'accélération de la population est fulgurante, enfin, genre, on a des raisons de s'inquiéter à ce moment-là ou pas?
Oui, c'est le moment, c'est pratiquement le moment du pic de la croissance démographique, où je dirais c'est le moment où on se rend compte de ce pic qui est, on l'a dit tout à l'heure, d'un peu plus de 2% de croissance par an. C'est extrêmement rapide, c'est un doublement en moins de 30 ans. Et à partir de là, ce taux de croissance va diminuer, mais on va mettre beaucoup de temps à intérioriser cette diminution.
Ouais. Alors en 73, il y a un film qui s'appelle Soleil Vert, et on se dit que finalement, il est complètement dans ses discours alarmistes de l'époque, avec ses projections justement sur les années qui viennent. Alors l'action est située en 2022 à New York, 44 millions d'habitants à New York, imaginez donc dans le film, avec une chaleur écrasante qui règne, les ressources sont très rares, et les ressources alimentaires en particulier, et donc en 2022, dans Soleil Vert, on mange des produits de synthèse et des pilules.
Pourquoi tu ne prends rien?
J'ai pas encore assez faim.
Je te laisse manger.
Cochonnerie sans odeur et sans goût. T'as rien connu d'autre, bien sûr. Quand j'étais gosse, la nourriture, c'était de la bouffe. Là-dessus, nos magiciens de la science ont empoisonné l'eau, pollué le sol, détruit les plantes et la vie animale. Enfin, de mon temps, on trouvait de la viande n'importe où, on achetait des œufs, du vrai beurre, on trouvait de la laitue fraîche à gogo.
Je sais, Sol, tu m'en as déjà parlé.
Est-ce que quelqu'un peut vivre dans un climat comme celui-là, la canicule d'un bout de l'année à l'autre?
On se croirait dans un four, on crève à force de transpirer.
Tu sais que tu m'agaces.
Voilà, Hervé Le Bras. Il est intéressant cet extrait, parce qu'il resitue vraiment la problématique démographique à cette époque.
Oui, et en même temps, il y a deux choses qui sont à remarquer. Il y a d'abord une erreur, puisqu'on n'a pas manqué de nourriture. La production agricole, là encore, c'est une chose qu'on connaît peu, mais qu'a souvent souligné la FAO, qui est l'Organisme international de l'agriculture, c'est que la production agricole par tête d'habitant a augmenté plus vite que la population. On a maintenant par tête d'habitant 50% de plus de calories produites. Donc là, il y a une erreur dans ce film, mais il y a une vérité, je crois, profonde, c'est que cette peur à laquelle on fait allusion à partir des années 70, Alfred Sauvy avait une explication. C'était un grand démographe et un grand économiste. Il disait, c'est la conséquence de notre aventure sur la Lune. Et on a cru que c'était un monde infini pendant très longtemps, qu'on allait coloniser d'autres planètes, qu'on allait trouver dans d'autres planètes des ressources. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas grand-chose sur la Lune et que ça ne devait pas être mieux sur Mars ou sur les autres planètes. Et donc qu'on était confronté à une planète finie, limitée, et qu'il allait falloir se partager ce que produisait cette planète.
Icharbi, justement, ces peurs, ces craintes sont principalement basées justement sur cette angoisse de l'accès aux ressources alimentaires? Autour du nombre, justement.
Elles ont été très tôt. Elles ont eu un retentissement énorme, ces peurs, très tôt, dès le début du XVIIIe siècle, quand un des pères de la démographie, sous l'angle plus, pas technique, mais sous un autre angle, a dénoncé le déséquilibre entre population et subsistance. Et ça a été une vague qui a parcouru toute l'Europe, de la Russie jusqu'à la Portugal, à l'Italie, où tout le monde s'est inquiété de ce risque de dépassement de la population. Alors, en réalité, l'argument est très vite devenu politique. J'insiste beaucoup sur la dimension politique, mais je crois que c'est central. C'est que très vite, on a dit, le problème n'est pas tellement les sociétés bourgeoises de l'époque, le problème, c'est les pauvres. Et l'argument est très vite devenu, la cause de la misère, c'est le trop grand nombre d'enfants que font les pauvres. Et autrement dit, ils allaient mourir de faim, une sanction par la mortalité, parce qu'ils ne réduisaient pas leur fécondité. Et ce qui est très intéressant, c'est que cet argument qui était développé, on va dire, entre 1798 et quasiment 1860, à travers toute l'Europe, va être repris, il va tomber en désuétude dans l'entre-deux-guerres, quand on a eu peur, au contraire, d'un effondrement de la population, et a repris une force extraordinaire après 1945, avec ce qu'on appelait l'explosion du tiers-monde et de la population mondiale.
Alors, parmi les questions qui reviennent toujours aujourd'hui quand on ouvre justement ces discussions autour de la démographie, celle de Viron, est-ce qu'il est vraiment possible de nourrir correctement 10 milliards d'habitants?
Oui.
Hervé Lebras, on en est à 7,2 pour
l'instant. J'ai beaucoup exploré cette question dans le livre que vous avez cité, puis dans un livre beaucoup plus ancien, Les limites de la planète. Il faut comprendre qu'on n'est pas en face de la population d'un côté, les subsistances de l'autre. Il y a toute une machinerie entre les deux qui est la transformation de la production agricole. Un exemple, si vous mangez une calorie de viande, il faut, selon le type de viande, entre 5 et 10 calories végétales pour former cette viande-là, c'est-à-dire pour donner de la nourriture aux animaux. Actuellement, plus de 50% des céréales produites dans le monde sont données aux animaux et pas aux humains directement. Donc, ils ne récupèrent qu'un petit bout. Donc, l'équation sera, selon le type de nourriture que vous aurez, eh bien, vous pourrez nourrir toute l'humanité ou peu, juste terminé par deux chiffres, si on ne donnait aucune nourriture végétale aux animaux, on les laissait paître dans la nature, on pourrait actuellement nourrir 11 milliards d'habitants, mais la part de nourriture animale serait faible, de l'ordre de 11%. Ouais. Si au contraire, on donnait uniquement de la nourriture animale, comme par exemple aux Esquimaux, à ce moment-là, on ne pourrait nourrir que 3 milliards et demi. Et si tout le monde avait le régime français, qui est un régime avec beaucoup de calories d'origine animale, on ne pourrait nourrir qu'à peu près 5 milliards d'humains. Donc, la question n'est pas la limite des subsistances, la question est le type de régime alimentaire.
Allez, on se retrouve dans un instant. Beaucoup de questions pour vous sur franceinter.fr, également les messages courts sur le compte Twitter de La Tête au Carré, avec le mot-clé « l'attaque ». Et c'est Pérez, à l'instant sur France Inter, avec les vacances continues. Yves Charby, Hervé Lebras, démographe pour ce dossier, donc dans la tête au carré cet après-midi, autour d'un livre également qui sort, La bombe démographique en question, Yves Charby avec Maryse Guémard, aux presses universitaires de France. Alors, il y a beaucoup de messages, toujours sur cette question des ressources alimentaires tout à l'heure et de l'écologie dont on parlait avec vous. Vieron, toujours nous dit ceci, la démographie est un terme tabou dans les discours, y compris des écologistes. Existe-t-il une réelle volonté politique mondiale pour limiter cette démographie? Yves Charby, vous répondez le premier, et puis Hervé Lebras ensuite.
Oui, je dirais que je suis très mal placé pour savoir si c'est un sujet tabou, parce que moi j'en parle tout le temps avec mes collègues, et notamment avec les gens qui s'intéressent, les politiques ou les institutions, ouais, pour lesquelles c'est au contraire un enjeu majeur actuellement, ouais, surtout dans les problématiques du sous-développement avec la question de la croissance démographique en Afrique. Donc je ne dirais pas que c'est un sujet tabou, vu de ma chapelle.
Mais vous observez les crispations autour de cette question de démographie et environnement qui sont réelles.
Oui, je ne suis pas un spécialiste de l'environnement, je tiens à le dire tout de suite. Par contre, je suis un spécialiste d'autres questions. Et là, on voit bien que c'est un sujet qui est extraordinairement sensible, incontestablement.
Hervé Lebras, alors pour compléter.
Oui, c'est-à-dire que c'est parce qu'on est en France que vous posez ou que la question de l'auditeur est posée, parce que la France est dans une position bizarre. Elle a toujours eu peur de ne pas avoir une population assez importante, parce que pendant un siècle et demi, sa fécondité a été beaucoup plus faible et sa croissance beaucoup plus faible que les autres pays européens. Et donc, il est bien vu en France d'être populationniste, de vouloir, comme disait Michel Debré, 100 millions de Français. Oui. Mais en même temps, l'écologie se rend bien compte que la population est une rivale et que plus il y a d'humains, plus il y a des risques pour la planète. Donc il y a un savant dosage en France. On est pour... on est pour la croissance démographique, mais pas trop forte. Et
On a une belle fécondité maintenant.
La plus grande fécondité d'Europe. Mais c'est lié à cette peur à fabriquer des mécanismes dans la population française qui l'amène au fond à considérer que la fécondité et la famille sont importantes.
Alors justement, Yves Charby, face à cette peur de la croissance de la population, il y a quand même l'histoire qui nous enseigne des choses très intéressantes, et en particulier les graves crises qui régulièrement dans l'histoire ont perturbé cette croissance démographique.
Alors, c'est un point qui me paraît important parce que ça permet de relativiser l'idée qui est à la base de l'explosion de la population mondiale, cette espèce de croissance fulgurante, de fusée qu'on n'arrivera jamais à arrêter et qui alimente évidemment les peurs. Et quand on regarde la courbe à long terme, on a l'impression que c'est une croissance très très lente qui s'accélère. Et dans le principal schéma théorique des démographes, on parle de transition démographique, mais avec des fluctuations, des crises courtes. Et ces crises courtes, on les analyse avec un mécanisme dit de récupération, c'est-à-dire que la vie reprend ses droits après une crise, d'une mauvaise récolte, d'une épidémie de peste, ou même d'une campagne militaire. Donc, dans le schéma des démographes, il y a bien l'idée d'une récupération. Ça s'explique très bien. Il y a un mécanisme de récupération qui a été mis en évidence par les historiens démographes. Et tout va bien. Le problème, c'est que tout ceci n'explique absolument pas des vraies catastrophes qui se traduisent par des effondrements.
Par exemple ?
Alors, il y a quatre exemples. Le plus célèbre, c'est certainement la conquête qui fait un effondrement de la population mexicaine qui passe de 25 à 2 millions sans précédent.
Donc la conquête espagnole du Nouveau Monde.
Le Nouveau Monde, la conquista. Ouais. Quand je parle à mes étudiants, ils découvrent ça. L'autre grande catastrophe, c'est la peste noire de 1346 qui tue 70% de la population de Florence, 60% Brême-Hambourg, etc. Ouais. Ce sont des vraies catastrophes et elles sont inexplicables en termes démographiques classiques. L'autre, c'est la traite esclavagiste qui est un sujet extrêmement sensible, comme vous savez, mais il faut être objectif là-dessus. Et le dernier, c'est les famines de Mao.
Combien
45 millions, les estimations varient entre 35 et 65 millions. C'est étonnant. Mais surtout, ce qui est spectaculaire et qui me paraît important, c'est que dans toutes ces catastrophes du passé, on a envie de dire qu'il y a un facteur épidémiologique, la peste. On a envie de dire, les aléas climatiques. Et on s'aperçoit, quand on creuse un peu, que c'est tout sauf strictement épidémiologique. Il y a une dimension économique, sociale, culturelle,
politique,
et avant tout politique, qui est absolument centrale.
Ouais. Hervé Lebras, alors ça a des répercussions, ces exemples cités à l'instant par Yves Charby, ça a des répercussions très claires sur la courbe de croissance démographique?
Oui, mais là, c'est quand même sur du très long terme. Les exemples donnés concernent le milieu du XIIIe siècle, le XVIe siècle pour l'Amérique, et puis juste pour l'affaire du grand bond en avant de Mao Tse-Tung, le début des années 60. C'est quand même des cas qui sont relativement limites. Il y a un autre cas qu'on peut citer d'ailleurs, qui est à l'origine de toutes nos civilisations, ce qu'on appelle la transition néolithique, c'est-à-dire le moment où on est passé de la chasse et de la cueillette à l'agriculture, et en même temps, on a commencé à domestiquer les animaux. Et du coup, des maladies qui étaient des maladies des animaux sont passées à l'homme. C'est le passage de transgression d'espèces, et on crée des maladies qui n'existaient pas avant pour les hommes. Et là, après une très forte croissance au début du néolithique, on a un effondrement et une stabilisation. Donc, c'est dans le très long terme historique que ces crises surviennent, et Yves Charbit a raison, elles sont en général très difficilement explicables. Dans le cas de la grande peste noire, on pense que justement, il y a eu un changement la maladie qui sévissait de façon endémique chez les rats en Asie centrale, qui a muté, et on connaît l'histoire ensuite, comment elle a été transmise par les Mongols dans une ville qui est actuellement l'objet de combat entre les Ukrainiens, qui est la ville de Kafa, qui est au nord de la Crimée, et où les Mongols ont projeté, les Mongols ont été atteints par la grande peste, et ils ont découpé les cadavres des Mongols qui étaient tués, et avec des trébuchets, ils les ont jetés dans la ville de Kafa. Et donc l'épidémie a été transmise, c'est la première guerre, on peut dire, biologique, et les Génois qui possédaient la ville de Kafa comme comptoir ont eu tellement peur devant la soudaineté de cette maladie qu'ils sont remontés dans leur vaisseau, ils ont fui, et ils ont fait voile vers l'Europe. Et ils sont arrivés à Naples et à Marseille, et de là, la grande peste noire a tué un tiers de la population européenne.
Une question de François sur franceinter.fr, Yves Charbit. Est-ce que le VIH-Sida a eu des conséquences sur la démographie mondiale avec ces 30 millions de morts que vous rappelez d'ailleurs aussi dans votre ouvrage?
Alors, il n'a pas eu des conséquences sur la démographie mondiale, mais certainement sur la démographie de certains pays d'Afrique qui étaient très touchés par l'épidémie.
Et chez les enfants en particulier.
Plus chez les adultes qui sont morts parce que transmission sexuelle. Mais le problème, ça a été l'émergence d'enfants orphelins du sida. Oui. Je pourrais juste revenir sur un point, si vous permettez, très brièvement. C'est qu'en réalité, le miracle, c'est que l'espèce humaine existe encore sur Terre, compte tenu de l'extraordinaire fragilité de l'espèce. Simplement, je me suis centré sur des exemples que je pouvais documenter. Voilà.
Mohamed nous dit ceci, dans quelle mesure la crise économique actuelle peut avoir également un impact sur l'évolution de la démographie mondiale?
Alors, c'est assez surprenant parce que dès que la crise de 2008 s'est pointée, j'ai commencé à suivre mois par mois ce qui se passait du point de vue des décès, du point de vue des naissances dans les pays développés. Et vous allez être surpris, il n'y a absolument aucune trace de la crise dans les courbes démographiques. Ce qui fait penser, je ne veux pas être provocateur, mais que cette crise est quand même moins dure que d'autres crises économiques. Par exemple, la crise de 75, on a vu immédiatement ses effets sur la démographie. Ont retardé la naissance de leurs enfants. L'âge des mères et des pères à la naissance de leurs enfants s'est mis à augmenter très rapidement. Il y a eu un changement dans les mœurs causé par la crise de 75, la crise pétrolière. Il n'y a pas de changement actuellement causé par 2008.
Oui, Charbit, étonnant, effectivement. Oui.
Tout à fait. Je dirais que là, il faut bien faire attention entre court terme et long terme. Alors, d'une certaine manière, je vais reprendre l'exemple de la crise de 74. Je parle non pas de la France, des populations européennes, mais des autres. Et d'abord, il y a eu un effet direct, ça a été l'arrêt de l'immigration, avec les politiques du regroupement, l'arrêt en 74. Le deuxième point, c'est que la crise de 2008, elle peut avoir des conséquences en termes d'appauvrissement des populations du Sud, et donc d'aggraver les inégalités Nord-Sud. Ça, c'est le deuxième point. Et troisièmement, sur la fécondité, je ne crois pas que ça joue réellement, parce qu'il y a bien d'autres causes qui expliquent la fécondité élevée. Je parle de l'Afrique en particulier.
Et la fécondité, on en parlera également dans un instant avec la particularité française. Say that I'm right.
shore, trying to find the right words ain't the same anymore. You gonna change, I'm sure. You gonna change from before. Trying to find the right words, it's the difference between us with thousand diamond rings out. Oh, sunshine, leave my head the right way.
Et The District, à l'instant, sur France Inter, dossier démographie avec mes invités Yves Charby et Hervé Lebras. Beaucoup de messages sur franceinter.fr. C'est un domaine scientifique qui passionne, hein, Hervé Lebras, la démographie, qui crispe aussi, on le disait tout à l'heure. Oui. Il y a beaucoup d'idées reçues dans votre science.
Oui, parce que d'abord, ça touche de très près à nos vies personnelles. Après tout, ça, on traite de nuptialité, on traite de mortalité, c'est la même chose que mariage et mort. Et puis aussi, ça touche à quelque chose de plus profond qui est l'idée des populations. Quand on dit la population française, en fait, on pense le pays, on pense la France, on pense la nation française. Donc là, il y a aussi quelque chose par derrière qui est de l'ordre du politique et du patriotisme.
Yves Charby, un message de Bruno. On parle toujours du nombre d'enfants par femme. Existe-t-il un indice du nombre d'enfants par homme? Et si oui, est-il le même? Et est-ce que ça permettrait pas des analyses intéressantes?
Alors, il existe, on peut tout à fait calculer le nombre d'enfants par homme, et ça a été très important dans certaines sociétés, je pense à la Caraïbe, où il y avait beaucoup de couples séparés, et donc l'homme avait des femmes successives, et donc des enfants successifs. Et donc on est amené à calculer un indice du nombre d'enfants par homme.
Et quel est-il alors?
Ça donne forcément des résultats différents, puisqu'il cumule plusieurs femmes, éventuellement.
L'exemple français, on le disait tout à l'heure, 2,1 enfants par femme.
Un tout petit peu moins, 2,0.
Bon, 2,0. Bon, en tout cas en 2010, on se faisait largement l'écho dans les médias de ce chiffre.
828 400 bébés, précisément, sont nés en France en 2008.
La France était déjà championne d'Europe en matière de fécondité, mais avec une moyenne de 2 enfants par femme, c'est un nouveau record.
Des résultats d'autant plus surprenants que les Françaises en âge de procréer sont désormais moins nombreuses. Elles font aussi des enfants plus tard. L'an passé, l'âge moyen de la maternité atteignait quasiment 30 ans.
Pourquoi est-ce qu'on fait plus d'enfants, nous les Françaises, qu'ailleurs?
Je sais pas, parce qu'on se sent bien avec son amoureux et que la famille peut-être a plus de regains maintenant. Alors voilà, au lieu de faire un enfant, qu'on privilégie, on en fait 2, 3.
On fait des études de plus en plus longues, le travail à trouver de plus en plus long, on attend d'avoir les situations stables qui viennent pas forcément. Moi j'ai 31 ans, je suis toujours en CDD à répétition. Donc si on attend que tous les paramètres idéaux soient installés dans une vie de couple, c'est sûr qu'on peut attendre peut-être d'être à la ménopause avant d'avoir des enfants, quoi, c'est sûr.
Pourquoi ce taux de fécondité donc ex aequo avec l'Irlande, hein, donc en tête du palmarès pour l'Europe et pour les Français, Yves Charby et Hervé Lebras, alors vos explications à vous?
Alors d'abord, il y a une politique sociale remarquable à l'échelon européen qui fait qu'on disait traditionnellement l'emploi est un facteur qui empêche les femmes de faire un enfant supplémentaire, le fameux troisième enfant. En réalité, c'est plutôt une convergence entre la possibilité, au point de vue économique, de cumuler un deuxième emploi avec la prise en charge sociale qui est unique. Maintenant, il y a un raisonnement quand même que les féministes ne cessent de dire, c'est pas la peine que je travaille si c'est pour payer la crèche, et j'ai besoin que mon salaire soit reconnu à l'égal de l'homme. Donc il y a un autre problème derrière.
Voilà. Ouais. Hervé Lebras.
Oui, non, il y a le cas de la France est quand même très particulier parce que maintenant les dépenses pour la famille sont par tête d'habitant les mêmes en Allemagne et en France. Et en Allemagne, c'est 1,4 enfants par femme, et en France, c'est 2 enfants. Et je crois que ce qu'il y a derrière la méthode française, si l'on peut dire, c'est cette très longue peur qu'on a eue d'avoir peu d'enfants et au fond de disparaître face à nos voisins, et qui nous a amené à changer de psychologie par rapport à l'enfance, notamment dans les années 30, à par exemple encourager le fait que les jeunes enfants doivent vivre avec d'autres jeunes enfants, donc les crèches, donc les maternelles. Et aussi à dire, c'est pas la mère qui est, la mère est très importante et le père aussi, mais c'est vraiment cette socialisation qui est importante. Oui. Alors que en Allemagne, c'est l'inverse, c'est la mère qui est essentielle pour l'enfant, et une mère qui retravaille rapidement en Allemagne, on l'appelle eine Rabe Mutter, ça veut dire une mère corbeau. Oui. Et donc en France, s'est fabriquée cette idée, et jointe à la peur de l'enfant unique qui a été instillée dans, au fond, depuis le début du XXe siècle. Et d'ailleurs, très clairement, quand une jeune personne ou assez jeune a un enfant en France maintenant, la famille lui demande tout de suite à quand le second. Une question de ce genre-là serait totalement déplacée pour une Allemande, et même pour une Italienne ou une Grecque.
Ouais. Alors, cette baisse de la fécondité, Yves Charby, c'est un fait à peu près général, quelques exceptions près, hein, mais sur l'ensemble du globe.
Oui. Alors, en gros, l'erreur majeure et le stéréotype qui continue à être dans les têtes, c'est effectivement population mondiale, partout il y a, etc. Alors, incontestablement, il reste quelques pays en Asie, qui sont le Yémen et l'Afghanistan, où la fécondité est très élevée. Dans l'ensemble de la Caraïbe, le seul pays qui fait exception, c'est Haïti. C'est-à-dire que des géants tels que le Brésil ou le Mexique, la fécondité est très faible. Et la vraie question, c'est l'Afrique. Mais là encore, il est absurde de dire qu'il y a un problème de démographie africaine et de croissance africaine. Le nord, c'est-à-dire la zone du Maghreb jusqu'à l'Égypte, et l'Afrique du Sud, où vous avez le géant qui est l'Afrique du Sud, ont des taux de croissance extrêmement faibles. L'Afrique du Sud, c'est 1%. Donc c'est très peu. Par contre, la vraie question, c'est toute la zone qui va du Sénégal jusqu'au Kenya, ou jusqu'à Djibouti, on va dire, où là, la fécondité reste élevée. Et c'est tout le problème, l'enjeu et la focalisation des efforts internationaux maintenant portent sur cette zone-là. Pourquoi et comment la fécondité reste élevée, le nombre d'enfants reste élevé en Afrique centrale, de l'Est et de l'Ouest.
Ouais, Jean-Paul demande si les religions jouent un rôle dans la réflexion démographique aujourd'hui. Alors justement, au sujet de la baisse de la fécondité, est-ce qu'on peut en parler ou pas ?
Alors, est-ce que la religion joue un rôle ? C'est un problème extrêmement intéressant. D'abord, on dit la religion explique. Mais qu'est-ce qui explique ? Est-ce que c'est la religion en tant que telle ? Est-ce que ce sont les dogmes, les pratiques, les attitudes ? Et en fait, il faut savoir de quoi on parle. On a tendance à dire la religion, comme on dirait la fin dans le monde. C'est trop simple. La deuxième question, c'est que quand on regarde de près, il y a trois exemples de grandes religions. Il y a l'Ancien Testament, croissez et multipliez, le catholicisme et l'islam. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai regardé de très près la fécondité dans tous les pays d'islam. Et il y a un exemple extraordinaire, c'est l'Iran. Les femmes iraniennes font moins d'enfants que les françaises.
Donc, vous parlez du paradoxe iranien.
C'est donc le paradoxe iranien.
Hervé Lebras. Paradoxe tunisien aussi, d'ailleurs. C'est non, le rapport à la religion, à un moment donné, a été évoqué parce que, justement, dans les pays musulmans, la fécondité était très élevée. Mais désormais, plus personne ne pense qu'il y ait un rapport étroit. D'ailleurs, la religion musulmane permet beaucoup plus la contraception et même l'avortement, d'ailleurs, que la religion chrétienne, ou du moins que la religion catholique. Et même quand on regarde en Europe, il n'y a aucun rapport entre les pays les plus catholiques et les pays les plus féconds. Parmi les pays les plus catholiques, vous avez par exemple l'Espagne et l'Italie qui ont le plus faible taux de fécondité en Europe.
Ouais, Jean-François nous dit ceci, ma question porte sur la biomasse humaine en pourcentage de la biomasse totale que pèse au sens propre en pourcentage l'humain dans le poids de la matière vivante. Et est-ce qu'on peut dire qu'un accroissement important de l'humanité pèse vraiment sur le vivant ? Alors ça, c'est une drôle de question quand même.
Oui, mais c'est une question qui a intéressé, vous savez que ça a intéressé Charles Darwin. Et Charles Darwin a consacré son dernier ouvrage aux vers de terre.
Ouais.
Il avait une remarque, il avait dit « il faut que je me renseigne sur mes prochains compagnons », ce qui est un peu sinistre. Et il a calculé, à partir des échantillons de vers de terre par mètre carré, quel était le nombre et le poids des vers de terre. La réponse, c'est que le poids de biomasse des vers de terre, à son époque, était 10 fois supérieur au poids de la biomasse humaine. Ouais. Et donc, vraisemblablement, la biomasse humaine compte pour une part relativement modeste de la biomasse générale. Une partie importante de la biomasse, en revanche, c'est les animaux domestiques. Et ça, c'est une cause de crainte pour l'environnement, notamment la biomasse constituée par les ruminants, parce qu'ils émettent un certain nombre de gaz à effet de serre.
Yves Charby, pour terminer, ce concept de population mondiale, il est totalement remis en cause aujourd'hui. Ça ne veut plus rien dire, vraiment?
Je pense que ça ne veut plus rien dire parce que c'est trop global, trop généraliste, trop simple. La question, c'est que ça reste dans la tête des gens, et c'est ce que disait Hervé Le Braz, et parce que tout le monde se dit « je suis concerné parce que je fais partie de cet ensemble-là », et évidemment, tout le monde se dit « j'ai mon idée là-dessus ». Et en plus, tout le monde se dit « il faut que je demande aux démographes ».
Germaine, un dernier courriel. Lorsqu'on ne fait rien, dit-elle, devant le traitement de certaines maladies mortelles dans des pays défavorisés ou face à des guerres exterminatrices, est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'il y a derrière cela une volonté consciente ou inconsciente de diminuer la population humaine terrestre ?
Hervé Le Braz. Oui, peut-être juste un mot quand même sur cette idée de population mondiale. Il faut bien voir, j'avais fait un livre il y a une dizaine d'années qui s'appelle « L'invention des populations », où je montrais que la notion même de population apparaît avec la notion d'État moderne. Elle est donc très liée à cette question politique. Et quelque part, la notion de population mondiale apparaît avec les Nations Unies dans les années 1945-50, avec cette idée qu'on va pouvoir gérer l'ensemble du monde. Donc effectivement, c'est une fiction, mais c'est une fiction politique.
Alors pour répondre très vite à la question de notre auditrice sur les maladies, donc et le fait de laisser filer les maladies pour faire baisser la population mondiale,
ça a été
théorie du complot.
Certains politiques l'ont affirmé cyniquement, mais ils se trompent complètement. Si on prend l'exemple du sida, puisqu'il a été dit « ah ben voilà, le sida va permettre de réguler la population de l'Afrique », ça risque d'être l'inverse, parce que le sida a désorganisé complètement le système de santé des pays africains les plus frappés, et donc a empêché la contraception et les moyens modernes de contraception de se étendre et de pouvoir être utilisé dans ces pays. Et donc, la fécondité a plutôt augmenté dans certains de ces pays.
Merci beaucoup. Yves Charby, donc, la bombe démographique en question aux presses Université de France. Hervé Le Braz, vie et mort de la population mondiale, par exemple, mais également l'atlas des inégalités dans un autre domaine aux éditions Autrement. Ça, c'est votre ouvrage le plus récent. Bonjour Fabrice Drouel.
Bonjour Affaires Mathieu.
Sensibles. Je suis en retard. De quoi parlez-vous tout à l'heure?
De la crise de la vache folle. Si on avait dit à M. Darwin qu'on allait nourrir des herbivores avec des carcasses d'animaux morts, il nous aurait dit, mais vous êtes marché sur la tête ou quoi? Mais c'est ça. Et on en parlera avec notre invité Frédéric Brunkel, l'auteur du documentaire « Mort aux vaches ».